Alors je reviens une dernière fois sur le début de la première lettre de Jean, donc ce sera essentiellement des versets du premier chapitre et du début du chapitre 2. Je vais redire des choses que j'ai déjà dites en partie, mais bon, mais pas que. Je lis à partir du verset 6, 1 Jean 1, verset 6. Si nous prétendons être en communion avec lui, avec Dieu, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, lecture à partir du verset 6, mais Jean l'a dit juste avant, donc ça c'est les versets 1 à 5. Ce qui le préoccupe, c'est la communion de ses lecteurs avec Dieu. C'est vraiment ça, la préoccupation qui va traverser la lettre et tout ce qu'il va dire. Parce que c'est ça pour eux qui est en question, c'est ça qui est en crise. Et donc ça va traverser la lettre jusqu'au bout, puisqu'à la toute fin, on lit la chose suivante. Enfin, il y a encore quelques versets après, mais c'est à la fin. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Donc, préoccupation de la communion avec Dieu. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, cette question ne nous préoccupe pas beaucoup. Elle ne nous préoccupe pas tous comme elle avait pu préoccuper les lecteurs de Jean. Peut-être. Mais cette même question peut aussi nous préoccuper, ou certains d'entre nous. Elle peut nous préoccuper parce que nous sommes travaillés par la question du péché, de notre péché, plus précisément, par la présence du mal. Et je ne pense pas là donc à quelque chose une préoccupation théorique du théologien qui réfléchit dans son bureau à propos du mal, qui est très loin. Pas la préoccupation de quelqu'un qui réfléchit dans l'abstrait, mais la réalité du mal dans notre vie à nous, dans notre existence à nous. Cette réalité se traduit parfois, je dis parfois parce que je cherche à nuancer, mais il ne faut pas que je cherche à nuancer parce que ça complique l'audition. Donc voilà, elle peut se traduire parfois par le sentiment de culpabilité. Et je vais nuancer juste maintenant. Donc. Par ces discours que nous tenons à nous-mêmes, j'aurais dû. Si seulement j'avais. Si seulement j'avais. Et on peut être d'autant plus travaillé par ça que, je crois que c'est bien connu, on peut s'en vouloir pour des choses dont on n'est même pas responsable. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais enfin, c'est parfois quelqu'un qui nous le dit, mais il dit, c'est bon, quoi. C'est pas ta faute. Le gamin de 5 ans, c'est pas sa faute si les parents se tapent dessus à la maison. Sauf si c'est très 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 pénible, je vous l'accorde. Généralement, on tape sur le gamin à ce moment-là. Pardon, mais... Voilà. Ah, c'est pas bien. Oui, non, j'ai dit une bêtise. D'accord, on est d'accord. Donc, on peut se sentir très très travaillé par des choses dont on n'est pas responsable. Je pense que c'est vraiment la situation de l'enfant qui sent ses parents porter des choses et qui voit ses parents parfois être méchants l'un avec l'autre ou envers lui. Mais qui sent bien qu'il y a des choses qui se passent dans la vie de ses parents et il peut imaginer que c'est lui qui en est l'agent principal. Alors que bien souvent, c'est pas du tout le cas. Ça se situe bien en amont de lui. Mais même quand on est responsable, on peut toujours se demander si l'intensité avec laquelle on ressent cette culpabilité, cette intensité qui nous travaille, si on peut se demander si elle est vraiment ajustée à la véritable hauteur de notre culpabilité. Et je peux m'en vouloir énormément pour un geste anodin que l'autre n'a même pas remarqué. Et même s'il l'avait remarqué, ça ne prêterait pas à conséquence parce qu'il a voilà, pensé à autre chose, parce que ça, il s'en fiche. J'ai pas vu qu'il me suivait, j'ai laissé la porte plutôt enfin, se refermer sur lui. Donc lui il est passé, simplement il a poussé la porte, il n'a pas réfléchi, il n'a pas vu, il n'a pas dit oh, tu aurais pu me tenir la porte quand même. Non, il ne pensait même pas à ça. Donc voilà. Il était tellement préoccupé par autre chose qu'il n'avait pas l'idée même de m'en vouloir. Et donc, si on lui posait la question, mais est-ce que... il dit, mais ça n'a aucune importance. Donc, c'est compliqué la culpabilité, parce que c'est entre la vraie et la fausse. Et à l'inverse, que faire? C'est le même problème, mais quand on ne s'en veut pas du tout. De choses dont on est prêt en même temps à croire que c'est pas bien. On serait prêt à dire à l'autre, c'est pas bien, mais quand on les fait soi-même, c'est comme si ça nous gênait moins. Alors ça dépend des personnes, ça dépend des moments. Ça veut dire que le ressenti n'est pas aligné sur l'analyse et sur le réel. Et quand on est dans ce type de questionnement, alors ça peut-être dépend des tempéraments, mais certains y sont peut-être beaucoup. Et quand se greffe à cela la question de la communion avec Dieu, parce que c'est plus simplement de l'autre auquel on n'a pas tenu la porte qu'on se préoccupe, mais c'est de Dieu. Là, du coup, ce qui est vécu à l'intérieur, ça peut devenir extrêmement vertigineux. Donc peut-être nous arrivons devant un texte comme celui-ci avec ce type de questions. Je voudrais vous inviter à constater avec moi que le texte lui-même ne rentre pas du tout dans ce type de préoccupation. Autrement dit, je vais le dire comme ça, il ne fait pas du tout de la psychologie des lecteurs. Oui, il parle de péché, mais il ne parle pas de culpabilité. Encore moins, même si on peut l'imaginer dans certaines expressions, encore moins de vraie ou de fausse culpabilité. Et comment je vais démêler entre la vraie et la fausse culpabilité? Je ne veux pas dire que Jean s'en fiche, je veux juste en faire le constat. Je dis, il n'en parle pas. Il a affaire à autre chose. Les lecteurs, ceux qui le lisent, étaient confrontés à autre chose, à des prétentions. Des prétentions comme, ben, on peut avoir communion avec Dieu, faire n'importe quoi, c'est pas grave. Ça n'affecte pas Dieu. En somme, le péché, le mal, ça n'affecte pas la communion avec Dieu. Je peux me comporter n'importe comment, ça n'a pas grande importance. Hein, parce que la spiritualité, ça a une réalité bien plus profonde, et ces trucs-là, le mal. Je suis dans la communion avec Dieu. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, comme on disait dans la cour de récré quand j'étais enfant. Des prétentions comme « moi je ne pêche pas », c'est que maintenant je suis spirituel. J'ai tant d'années de vie chrétienne au compteur. Alors. Ou bien le péché, ça ne peut pas être si important que ça, au bout du compte. Et pas dans ma vie, en tout cas, dans mon histoire. Ou bien des prétentions comme le péché, ça n'existe pas. C'est une invention des curés, on le sait bien. Hein. C'est une invention de ceux qui veulent abaisser, qui veulent avilir les hommes. Donc on les écrase sous la culpabilité. Donc il n'est pas question dans le texte de vraie et de fausse culpabilité. Mais pour nous, pour qui il en est peut-être davantage question, quand on prend ce texte et quand on est travaillé par ce texte et par des prétentions comme celle-ci, tout ça fait un mélange un peu compliqué. Alors qu'est-ce qu'il faut croire, penser ? Je vous propose d'entendre dans ce texte deux choses. Et ces deux choses qui en fait renvoient à la même assise, au même ancrage. Et au même ancrage solide, c'est pour ça que je tape la chair, c'est pas simplement parce que j'ai des gestes que je ne contiens pas. C'est le rattachement à quelque chose de réel. Et ce rattachement réel, il est déterminant, il est rassurant dans le propos de Jean. Ce rattachement au réel, donc c'est la première chose, c'est ce que le début du texte, en fait, les versets 1 à 5, font apparaître. C'est que Jean, devant ses prétentions, Jean qui est, il le dit, il le développe, qui est témoin, qui a été compagnon, accompagnateur, ami de Jésus, peut-être même l'un des plus proches disciples dans le groupe des 12, quant à l'intimité, quant à la familiarité qu'il a vécue avec lui. Jean qui a parlé avec lui, donc Jean qui sait de quoi il parle quand il parle de lui, Jean vient écarter ses prétentions. Si tu dis ces trois prétentions, ou l'une d'entre elles, tu trompes, et tu te trompes. Et il dit à ses lecteurs, si vous entendez de telles choses, écartez-les. Ne leur laissez pas de prise. Ça ne se fonde pas sur la réalité de ce que j'ai connu de Jésus. Ça ne se fonde pas sur ce que j'ai entendu Jésus dire et enseigner. Et parce que j'étais là, je peux vous le dire. Et si ceux qui enseignent de telles choses se prétendent chrétiens, bien sachez que ce qu'ils disent est inexact. Faux et mensonger. Ne les laissez pas vous troubler. Ne leur laissez pas de prise. Ils ne s'appuient pas sur la réalité. Ils se font des idées sur Jésus, sur la vie chrétienne. Okay. Et volontairement ou non, ils sont dans l'erreur. Et si Jésus était là, il démentirait leurs propos. Moi, Jean, j'étais avec Jésus, je le connais. Je dément leurs propos. Et autrement dit, pour prendre une autre image de quelque chose de solide, qui tient, voilà, en m'accrochant à la chair, mais voilà, c'est comme si on vous montrait ça. Et puis on vous dit, ceci est rouge. Eh bien, Jean est un peu dans la posture de celui qui nous dirait, ben, je vous dis que ceci est vert. Enfin, j'espère. C'est la réalité. J'en ai dans la posture un peu de celui qui aurait fait l'école des beaux-arts et qui pourrait dire, mais j'ai fait l'école des beaux-arts, je suis compétent pour le dire. Et vous me direz, je suis d'accord avec vous, j'ai même pas besoin d'avoir fait l'école des beaux-arts pour vous dire ça. C'est la réalité. Cette couleur-là, c'est ce qu'on appelle le vert. Et celui qui croit autre chose ou qui affirme autre chose se trompe et trompe. Point barre, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas moins que ça, mais c'est pas plus que ça. Jean dit, l'évangile dit que le péché qui nous concerne, qui concerne chacun des lecteurs de Jean comme chacun d'entre nous, affecte la communion avec Dieu. Point barre. Et l'évangile fait entendre que si nous vivons comme il le demande, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Je ne vais pas dire point barre parce que ça ferait un peu... Mais c'est le réel qui nous est proposé. Alors on sera d'accord ou non avec l'évangile, ça c'est la liberté de chacun, on va dire oui tout ça c'est bien mignon, mais moi j'y crois pas, ok. Mais l'évangile c'est cela, c'est bel et bien cela. La réalité de l'évangile c'est ça. Et Jean dit, je l'ai entendu, je l'ai appris de Jésus, eh bien je vous le dis. Le réel est là. Fais-en ce que tu veux. Deuxième chose, et je reviens plus sur la question de la vraie et de la fausse culpabilité, ce texte ne parle pas de vraie ou de fausse culpabilité. De faire le distinguo entre la culpabilité ressentie et le péché objectif. Il est soucieux de portraits de la vie chrétienne qui sont juste décalés par rapport à ce que le Jésus réel a enseigné. Donc il ne se préoccupe pas de vraie et de fausse culpabilité, et en même temps, en répondant aux questions auxquelles il répond, Jean fait résonner quelque chose qui rejoint au moins en partie ses préoccupations, il me semble. Et ce sont ces trois formules que je voudrais mettre en valeur. Verset 7, « Parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. » Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Et puis au début du chapitre 2, si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous, en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je rapproche ça de la vraie et de la fausse culpabilité, parce que la question de la vraie et de la fausse culpabilité, comme d'autres, a quelque chose d'un peu inextricable. Et souvent, quand on y est confronté, affronté, quelque chose de tourmentant et de destructeur, parce qu'on n'a pas de... Ça se passe dans notre tête, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de point d'appui. On manque de point d'appui pour apprécier. On ne sait même pas si notre appréciation est juste. C'est comme quand vous... Enfin, je ne sais pas si c'est comme... Vous avez peut-être fait cette remarque quand vous êtes si vous montez dans le bus ou le métro. Il dit, mais le bus, le métro, en fait, moi, si je saute, le métro va continuer un petit peu plus loin. Vous êtes au début du wagon. Et puis, comme c'est le métro, si je saute, et bien, je vais rester en l'air un petit temps et puis je vais me retrouver. Et ça ne se passe pas comme ça, alors je demanderai, enfin, je ne demanderai rien. Il y a certains d'entre nous qui pourront vous expliquer ça, c'est très bien. Mais comment ? La relativité restreinte, on me dit dans mon oreillette à gauche. Mais c'est entre ce ressenti, c'est pas fiable. Enfin, voilà, et je sais bien que c'est pas fiable, mais je ne sais pas ressentir autrement. C'est ça la culpabilité. Je me sens coupable ou pas, à tort ou à raison. On m'estime coupable ou pas, à tort ou à raison. En tout cas, on me le fait sentir. Bon, ça. Je suis coupable ou pas. Et comment je me débrouille avec tout ça? Alors je relève que pour parler de la communion avec Dieu, en tout cas, parce que le texte ne parle pas vraiment de la relation avec les frères et sœurs ou les autres personnes, pour ce qui concerne la communion avec Dieu, Jean renvoie à sa connaissance directe, concrète, réelle, du Jésus réel. C'est le début du texte. Il renvoie à du concret, il renvoie à du factuel historique, à du factuel observable, à quelque chose de sûr, à quelque chose qui est un point d'appui. Et à quelque chose qui échappe à cette subjectivité qui est la nôtre par la force des choses. Et c'est ce qu'il fait pour le péché, la culpabilité. Ici, Jean renvoie à du factuel. Jésus, son fils, a versé son sang. Factuel. Je crois que du coup, le lecteur peut entendre, pour ce qui concerne la communion avec Dieu, s'il était emporté dans un abîme intérieur, détache-toi de cette spirale intérieure sans fond, à te demander combien tu as péché, quelles conséquences ça va avoir devant Dieu, et puis non, t'en as fait vraiment de trop. Ne te laisse pas noyer par ça, ne te laisse pas emporter par ça. Ne te laisse pas enfoncer dans ces profondeurs de toi-même qui n'ont pas de fond. Tu t'y noierais et tu n'aboutirais qu'au désespoir. Entends simplement. Jésus, son fils, a versé son sang. C'est réel. Et l'évangile réel te dit, parce que Jésus, son fils, a versé son sang, nous sommes purifiés. Nous sommes purifiés de tout péché. L'évangile réel, aussi réel que la couleur était verte, nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il nous pardonnera nos péchés. Il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Alors oui, si nous reconnaissons, donc il y a bien une responsabilité, un engagement personnel qui se fait, mais si cet engagement est fait, l'évangile réel dit, il nous pardonnera nos péchés. Il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Et l'évangile réel, nous a, aussi réel que c'était du verre tout à l'heure, te dit, il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Et à la fin de la lettre, le Jean réel, qui annonce l'évangile réel, nous dit, cela je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Même si le ressenti ne suivait pas, ça n'en demeure pas moins une réalité. Et c'est cette réalité-là, cette factualité-là, le caractère factuel, c'est un fait, qui doit constituer notre point d'appui. C'est là-dessus que Jean s'exprime, à partir de là. Pas dans les tourments sans fin d'une subjectivité qui rêve de voir certaines choses, ou qui a plaisir par rapport à elle-même à rêver des cauchemars. Parce que les deux peuvent être possibles, on peut rêver de choses formidables, et voilà, on ira tous au paradis, toi et moi. Mais on peut rêver aussi de manière cauchemardesque. Alors je voudrais dire, alors merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci parce que Jésus a vraiment versé son sang. Celui qui l'a connu au plus près, qui a connu Jésus au plus près, nous relaie de la part de Jésus parce qu'il a fait, que parce qu'il a fait cela, tu es purifié de tout péché. Merci d'un cœur reconnaissant et étonné, parce que si je reconnais mes péchés, même si ceux-ci ne me travaillaient pas beaucoup, Jésus pardonnera mes péchés, nos péchés. Celui qui a côtoyé Jésus au plus près me dit que Jésus pardonnera. Je ne comprends pas. Et merci. Merci de tout cœur parce qu'il m'est proposé de croire, d'entendre qu'il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Merci de tout cœur parce que c'est là l'évangile. C'est là l'appel de Jésus. C'est là l'objet réellement annoncé, offert, proposé à notre intelligence, à notre ressenti, à notre intériorité, et qui est proposé à tous les êtres humains. Proposé à notre foi. Autrement dit, proposé à notre confiance. Nous vous annonçons, dit Jean, je reprends le tout début de la lettre, le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu, de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Je vous invite à un moment de silence.